Bonjour, merci d'être resté pour ceux qui le sont, d'être venu pour cette rencontre donc regard croisé entre un auteur et son traducteur. Aujourd'hui, c'est la troisième du genre aux Utopiales et nous avons à ma gauche Lev Grossman, l'auteur de la trilogie des magiciens, entre autres, et à ma droite Jean-Daniel Breck, traducteur de nombreux auteurs. Nous reviendrons peut-être sur la liste, mais dans un premier temps, Jean-Daniel va donc se faire un plaisir en tant que combre de Lev Grossman de le présenter.
Lev Grossman est un écrivain new-yorkais qui, avant Les Magiciens, avait déjà publié deux romans, l'un inspiré par Star Trek, qui est assez étonnant, et qui allie à cette occupation d'écrivain un travail à Time Magazine, où il est surtout spécialisé dans les nouvelles technologies. Il y a quelques mois, il y a un ou deux ans, il a fait un gros dossier sur Mark Zuckerberg qui a fait la couverture de Time. Et aujourd'hui, même s'il conserve cette occupation, il se consacre de plus en plus à l'écriture. Il est en plein travail sur un nouveau roman.
Quant à Jean-Daniel Breck, que nous sommes nombreux à connaître parmi l'auditoire d'aujourd'hui, Jean-Daniel est un traducteur émérite couronné de nombreux prix de traduction. Il a notamment traduit Poul Anderson, Clive Barker, Poppy Bright, Stephen King, Dan Simmons, mais aussi Lev Grossman. On dit peu souvent qu'il est aussi nouvelliste, mais enfin, il n'aime pas qu'on lui en parle parce qu'il n'a pas envie d'écrire en ce moment. Et puis, il a aussi coaché pendant de nombreuses années l'équipe de traducteurs nombreux qui officiaient autour de la première version de la revue Galaxy. Et il faisait ça avec brio et il corrigeait cela avec une plume acérée. Donc, il sait aussi avoir un regard extérieur sur le travail de traduction de ses collègues. J'aimerais commencer par demander à Lev Grossman justement quelle est sa relation aux langues étrangères. Est-ce que vous êtes Lev? Did you Lev learn foreign languages in school? And are you familiar with translation yourself? Did you ever translate? What is your relationship with that?
I've only ever translated under extreme duress. My relationship to foreign language is one of serial futility. I have attempted to learn French. I spent the summer after my sophomore year of college in Paris, not attending the classes that I had paid for at the Sorbonne, but sulking in museums. I've tried to learn German and Russian. And Latin, but never with any great success. I'm fluent in only one language, and that's English, and that only barely.
Donc, Lev a appris ces langues étrangères, mais il a aussi travaillé sur d'autres formes de code, puisque, en dehors même de son ouvrage appelé Codex, il a travaillé sur un sujet très précis. So you worked in journalism, you studied the Voynich manuscript and wrote a big article about it. Could you tell us more about this thing that is impossible to understand to the human mind presently?
The Voynich manuscript is it's a mysterious and very magical book. It's in the collection at Yale University. Its origins are shadowy, but in the Renaissance, what distinguishes it is that it's written in a cipher, in a code, a language that people have been trying to decipher for centuries. And now, even with modern computational technology, still nobody has been able to crack it. It's an example of the kind of thing that's fascinated me throughout my career. Hidden knowledge, inaccessible knowledge, which is sort of right in front of us, and yet we can't access it, and which seems to carry with it an aura of power.
Est-ce que Jean-Daniel, d'après toi, ça ne fait pas écho justement à l'œuvre de Lève et à ce cycle des magiciens où, bon, évidemment, la magie est extrêmement présente, mais aussi l'écrit dans l'écrit, puisque un livre est finalement quasiment un des personnages, une entité qui va conduire toute l'intrigue de la série.
Tout à fait. Bon, je ne veux pas déflorer la trilogie pour ceux qui ont encore à la découvrir, mais dans un autre contexte, pour d'autres œuvres, on parlait d'univers livre. Et là, c'est un des aspects, effectivement, de l'univers des magiciens, où il y a une scène absolument hallucinante avec une bibliothèque magique. Et à la toute fin, on découvre l'importance d'un livre en particulier, qui est une pièce d'un puzzle immense.
En tant que traducteur chevronné, la magie ne t'est sans doute pas étrangère comme sujet, le vocabulaire de la magie, etc. Comment as-tu travaillé cet aspect de la chose et d'ailleurs, d'autres aspects langagiers t'ont-ils frappé plus particulièrement dans l'œuvre de Lève, dans ce cycle des magiciens?
Comme chaque fois que j'entame la traduction d'un ouvrage, j'essaye, dans la mesure du possible, de faire le distinguo entre ce qui est de l'invention pure de l'auteur et ce qui fait référence à des œuvres antérieures, à des livres antérieurs, à une mythologie, à de l'histoire, etc. Et donc de jouer sur la frontière, d'être toujours dans le bon ton, si j'ose dire, de bien savoir discerner ce qui est purement de Lev Grossman, ce qui vient de telles références citées nommément ou que le lecteur doit deviner, une citation plus ou moins dissimulée. Donc il n'y a pas de règle universelle. Moi, je n'ai pas appris la magie, je ne suis pas un prestidigitateur, je n'ai pas les mains pour. Mais je sais, comme nous savons tous traducteurs, je sais où trouver les informations.
And you, Lev, did you think about translators when you were writing? And did you make notes that you would send them? And no, of course not. Or yes, you did.
When I was writing The Magicians, it seemed so strange to me. It seemed like such a strange book that I really didn't have much confidence that it would be published at all, let alone translated into other languages. So I didn't give a thought to the poor future translators, I'm afraid.
But you told me earlier that the way you worked, and we are going to be talking about this more in depth, the way you worked was on a prerequisite, was to use the tools of mainstream, highbrow, let's say, literary fiction,
yes,
in order to tell your own story. So I guess in that process you must have thought about language a lot. And are there any tools you are using, special tools you are using in that area?
The Magicians, they're very much books about language. One of the odd things about them is that the Magicians books is that the story that they tell in its outline, in its skeleton, is extremely familiar. They tell, in part, the education of a wizard, which may set off echoes in your mind of other works. It's about people who find their way into a hidden magical land that nobody else knows exists. These are familiar stories, and you know the action in The Magicians, the excitement of it, really lies in the kind of language that I use to tell the story, which is not the language that we think of as proper to fantasy or young adult fiction. It's a language derived from, in part from literary fiction. The prose is very much on the model of, for example, Jonathan Franzen, just a contemporary realist literary language. I wanted to try and see what it would be like to describe things like someone casting a spell, but describe it the way that Hemingway would have, or Virginia Woolf, with that kind of, you know, very precise, very literary language, and see what that would look like. And then on the other hand, it's also a very American book, it crosses the border not only between literary fiction and fantasy, but between England and America. To an American, British English has a very particular sound. It sounds very precise, very correct. It sounds like complete sentences and complete paragraphs. It has a status associated with it. It has a high social status associated with it. So one of the curious things about The Magicians is that the characters speak like Americans. They call each other dude. And they use filthy language, which British people do too, but Americans don't know that. It's a great secret. They swear constantly. They don't talk like characters in Harry Potter. And part of the fun of the books is just recreating that story in an American context and in a sort of hyper-realistic way. But that action all happens on the level of language, not on plot or story.
Et donc, Jean-Daniel, comment cet aspect de la langue, comment as-tu été amené à la travailler ? Bon, la distinction entre le British English et l'American English, déjà, est-ce que tu as trouvé des choses qui permettraient de le faire en français ?
Non, franchement, c'est je n'ai même pas cherché.
Oui.
Mais simplement, j'ai bien vu, effectivement, ce que vient d'expliquer Liv Grossman, que le niveau de langue dans les dialogues entre les personnages, les élèves de l'école des sorciers, était vraiment quelque chose qu'il fallait cerner avec précision. Parce qu'il a dit, c'est très américain, mais surtout, comment dirais-je, c'est typique du niveau de langue de jeunes américains de cet âge, puisque bon, c'est des 18-22 ans, pour simplifier, à notre époque. Donc,
comment as-tu fait ? Tu as consulté tous les teenagers que tu connais ?
Ben, ça, c'est quelque chose que, je pense, tous les traducteurs font de façon inconsciente. Quand ils regardent un film en français, que ce soit un film français ou un film doublé, ça nous arrive, on s'imprègne de la diction, de l'accent, des modulations des acteurs. Et bon, ça ressort dans l'écriture et même dans la rue. On a tout le temps, enfin bon, pas toujours, là c'est... Mais j'écoute les gens, on écoute parler les gens. Tiens,
ils t'imprègnent.
Tiens, je ne connaissais pas cette expression, ça se dit maintenant. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc je fais des recherches. On essaie de ne pas se laisser dépasser. Parce que bon, si j'avais voulu faire rendre ce niveau de langue en pensant à comment je parlais quand j'avais 18-22 ans, personne n'aurait rien compris.
J'ai une question que je poserai d'abord à Lev en anglais. So, one question though is, what was the part of the editor on your work? Were you very controlling about your style and the level, you know, le niveau de langue, level of language is like, as you said, denoted class, for instance.
Yes.
Did you have to fight for your text? Or was your publisher and the editor, were they... quite comfortable with your own choices?
Well, it turned out to be a very interesting process. At least in America, when a book like that, an agent goes to sell it to a publisher, one of two things happens. Well, three things. The first one is it gets rejected. The second one, it gets sold to a genre publisher, a science fiction or fantasy publisher, like Tor, for example. Or it can go and be... published by a literary publisher, which was the case for The Magicians. I often think about what it would look like if it had gone through the editor, the genre process. The editor I had was not interested in magic or science fiction, had never read Harry Potter or the Chronicles of Narnia. She sort of skimmed over those bits and was very focused on working with me on the language and in particular the psychology of the characters. The idea for her was that this book should function as an emotional drama, even if there was no magic in it. So that was the focus in the editorial process. It went through a real sort of literary hazing process, which took about a year and a half and was very unpleasant for all involved, but I was happy with the outcome.
Et de ton côté, Jean-Daniel, le travail avec la Talente a-t-il servi aussi à affiner ce genre de détails ? Et quels étaient, comment ça s'est passé ? Il y a eu des allers-retours de ce point de vue ?
Non, enfin, le seul aller-retour, c'est après que j'ai remis mon travail, Il a été relu avec attention. Alors, il ne travaille plus à la Talente, mais son fondateur, Pierre Michaud, était encore à ce moment-là chargé de la relecture des traductions. Et je sais que le livre de Lev Grossman lui tenait à cœur. Donc, il y a eu des échanges, par moments assez douloureux.
Musclé, un petit peu comme cela. Similitude.
Sur un travail d'une si longue distance, d'autant qu'entre deux livres consécutifs, il s'est écoulé 2 ans. Donc il fallait que je me remette en mémoire où en étais-je, sur quel ton faisais-je ceci, etc. Il y a toujours des réglages, parfois des réglages de fond, parfois des petits fignolages. Bon, et je me souviens que sur Les Magiciens, sur le premier volume, Pierre Michaud m'a fait très plaisir parce qu'il m'a dit: Jean-Daniel, tu l'as tenu sur toute la distance. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre, j'avais trouvé le ton juste, selon lui, sur toute la distance. Bon, sachant que c'est un livre comme ça, il faut 2, 3 ou 4 mois de travail suivant les difficultés. Donc, c'est une question de concentration.
Donc, on va peut-être aller un petit peu plus loin encore maintenant sur les techniques de travail et les outils. Donc, so Lev, what started your story? I know the theory about writing with contemporary tools, linguistic tools, but what about your tools, your everyday tools, and what about the way you write? Were the characters, did they come first? Did the plot come first? I don't know, the situation, the location, the book within the book?
The thing that I should just as a little background, I had a very literary upbringing. Both of my parents were English professors. My father was a poet as well, which only compounded matters. Our household was very much about literature, and very high literature. And I, for 15 years, that was what I wrote. And I wrote quite badly and with very little result. And it wasn't until... I read fantasy and science fiction constantly, but I never thought to write them because... I can't believe I'm saying this out loud, but because my parents would have disapproved so severely. It wasn't until I'd been writing for 15 years that I realized... that the books that were giving me what I needed weren't literary books. If I was going to say what I wanted to say, it would have to be in the form of fantasy. And only then did I find my voice as a fiction writer. And once I'd hit on that, the tools, I just use whatever. I use a computer. It's very boring. There's nothing more boring than a writer talking about how they work. I write on a computer... And I drink a lot of coffee and play games on my phone.
What kind of software do you use? I'm sorry, but it's not boring, contrary to what you think. French people write a lot. And everybody likes to know how other writers do it.
The correct tool to use for writing a novel is Scrivener. Scrivener is a word processing program, but it is optimized for novel writing for very long documents with a lot of interconnections between the parts. Unlike, say, Microsoft Word, which is optimized for writing business letters, more or less. I write in Microsoft Word, and it's because I was writing a novel in Scrivener that I had to abandon. And it was so traumatic that I can't even look at the... If I look at the user interface for Scrivener now, I have panic attacks. and so I abandoned it completely and deleted the application and work in Microsoft Word, which sucks, and I don't recommend it. That is the tool that I use. It's not the right tool, but that's what I use.
Quel logiciel utilises-tu, toi, Jean-Daniel, ton travail quotidien de traducteur, ou quels outils de traduction utilises-tu? Après, on reviendra quand même sur la question de comment il écrit. Hein, mais,
je n'ai découvert que cette année, en conversation avec des amis, notamment Lionel Davou, qui est un grand défenseur de Scrivener, c'est un outil que je ne connais absolument pas. Moi, je travaille avec un traitement de texte, bon, Word en l'occurrence, parce que je le maîtrise, et puis surtout parce que sur d'autres travaux, ça me permet de passer à des maquettes, etc., facilement. Mais la différence, une des différences entre un romancier et un traducteur, du moins ce qui me concerne, c'est que je comprends très bien qu'un romancier ait besoin de changer des blocs de texte, de construire son roman, de reconstituer un puzzle de façon à ce qu'il soit satisfaisant, alors que moi, je travaille du début à la fin, en linéaire. Quand je veux revenir en arrière, je rouvre le bon fichier ou je vais à la bonne page.
Tu veux rendre ton plaisir de lecture et le plaisir de la découverte du roman linéairement.
Oui, en plus, je sais que je ne suis pas tellement ordonné. Si je travaillais par petits bouts, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de traduire le chapitre 25. Et puis après, si jamais je ne l'ai pas mis dans un document qui s'appelle chapitre 25, après, je vais passer une heure à le retrouver.
Cela dit, il me semble savoir que tu as traduit certains romans à plusieurs mains, cela t'arrive, sur des ouvrages peut-être moins exigeants, la logique actuelle de l'édition fait qu'on doit produire très très rapidement, donc on associe une équipe de traducteurs avec quelqu'un qui chapeaute. Et dans ces cas-là, ça se passe comment
Du point de vue de l'utilisation du matériel,
avez une bible comme on a dans les scénarios
C'est très artisanal. C'est-à-dire que, bon, je le dis pour que vous cerniez un peu le problème, c'était sur la dernière trilogie de Ken Follett, Le siècle, qui était en fait une histoire du XXe siècle sous forme d'un gros roman en trois volumes où on suivait cinq familles britanniques, américaines, allemandes, galloises, etc. Et comme tu l'as dit, on était quatre ou cinq traducteurs pour un volume. Il y avait une des traductrices, j'étais le seul mec, hein, je sais pas pourquoi, il y avait une des traductrices qui était aussi le chef de projet et qui avait le dernier mot. C'est-à-dire quand on n'était pas d'accord sur un terme ou le moment où Hubert tutoie Nathalie, alors qu'il la voyait jusque-là, c'était elle qui tranchait. Mais au niveau des outils, on travaillait tous sur Word parce que c'était l'outil commun, et périodiquement, on envoyait le travail à la chef, qui ensuite recollait les morceaux, et sachant qu'en même temps, comme le sujet était le même, c'était l'histoire du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc., chacun de nous quatre ou cinq était amené à faire des recherches qui, de temps à autre, pouvaient profiter à l'un d'entre nous. Donc là, la communication était instantanée. On partageait nos résultats.
So, Lev, before asking you again about the way you do write, did you ever write with another writer, a fiction, a short story, or...
Like, collaborate?
Yep.
I haven't, have I? No, I haven't. It's one of the characteristic traits of novelists that they tend to be control freaks. More than most media, more than film or TV, or, I don't know, playing an orchestra or ballet, when you're a novelist, you have absolute control over every single little word. You have an editor, they'll tell you what to do. You don't do it. You just do what you want to do. It's a result. I have a hard time collaborating. I have issues of control. It's difficult for me to give them up. I now have worked on a TV show, that was also traumatic in a different way. Just because giving up control, I find it so difficult.
But would you care to give us a little bit of view of your intimate workings when you're actually building a story?
Sure. I'm a very close outliner. I occasionally improvise plot twists and scenes, but I can't count on myself to do it. So I have everything, scene by scene, planned out before I begin a book. With The Magicians, the very beginning was kind of was little preparatory sketches, just language. I can remember writing a paragraph, describing a demon who was smoking a cigarette, and I wrote it and looked at it and thought, is that interesting, that the juxtaposition of the demon and he's talking like an American thug in this degraded American English that we use, and he's smoking a cigarette and he tosses that out. I thought that's quite interesting. I didn't use it, but I began with little just experiments of tone like that, then a plot outline. A quick draft took a year all the way through, and then 4 years of revisions on top of that, And that's when everything really comes into focus with the revisions.
So the plot came first, not the characters, not the setting, not the book, within the book?
Characters are they're very hard. I have a lot of trouble with them. My early drafts tend to be very silent. Nobody says anything because I can't figure out what they're thinking. I put them through the motions. I know what they're going to do, but what are they thinking and feeling? I can't figure it out. I only very slowly layer in the dialogue when the characters start to tell me what's going on with them. That stuff becomes relatively late. The action is the beginning, and then I find out how everybody feels about it in the fourth or fifth draft, and that's when the characters arrive.
And on a daily basis, what is your day's work or your work day? Do you wake up at, I don't know, always the same time and then go to sit at 8 with your coffee or tea or whatever in front of your desk, or are you more laid back about this?
I have three children, and so the everyday details of my life are subject to the whims of cruel and perverse gods aged 4, 6, and 12. Only when they go to school can I actually focus on my writing. While I wrote The Magicians, I, in addition, was working a full-time job. So I wrote a great deal of The Magicians on the subway. I had a 45-minute commute to work. I'd bring a MacBook Air, and I'd sit and do my work in the subway. And then I would write at nights and weekends. To be honest, I don't clearly remember when I did it, because now I say that it doesn't sound plausible. But that must be when I wrote it. Now I write all day. I'm not going to my day job anymore, so things are much simpler. I write while the kids are in school. But when I wrote The Magicians, it was very chaotic.
Et de ton côté, Jean-Daniel, quelle est ta journée de travail? Est-ce que tu as des phases de travail intense et d'autres moins, ou est-ce qu'au contraire tu es très régulier?
Sur le long terme, c'est-à-dire sur une durée de 2-3 semaines ou un mois, je suis très régulier. C'est-à-dire que j'essaie de produire, entre guillemets, la même quantité de travail sur une durée moyenne. J'ai bien peur d'être ce qu'on appelle en anglais « workaholic », c'est-à-dire un bourreau de travail. En ce moment, je me lève entre 3 et 5 heures du matin. À 8 heures, je commence vraiment à traduire. Après avoir... passer du temps à faire des recherches sur Internet, pas nécessairement en lien avec le travail en cours. Et il m'arrive, si je suis en forme, d'arrêter de travailler à 7-8 heures du soir. Bon, tout en ménageant des plages de repos. Cet été, c'était très facile, puisque j'ai un balcon. Donc, c'était très agréable de ne rien faire en prenant le soleil. Bon, après, j'ai regardé la quantité de feuillets livrés dans le mois. Je dis, bon, on arrête.
Bonne question d'ailleurs. Combien de feuillets par jour en moyenne? Alors le feuillet, c'est l'unité de décompte, pour ceux qui ne sont pas dans la partie, puisque je vois quand même quelques collègues traducteurs là. Donc le feuillet, c'est une page de 1500 signes, les signes étant en France des espaces et les caractères. En anglais, dans le monde anglophone et je crois au Québec, on compte plutôt en mots. Mais en gros, un feuillet, ça fait 250 mots. Donc, combien de feuillets en moyenne par jour tu...
Ben, ça dépend, parce que il y a quelques années, j'ai fait l'effort de noter ce que je faisais. Mm-hmm. Et j'ai montré ça à un ami éditeur qui m'a dit, Jean-Daniel, tu es fou, arrête. J'étais arrivé à 3600 feuillets dans l'année.
C'est énorme.
C'est énorme, oui. Ouais. C'est 10 feuillets par jour, tous les jours de l'année, quoi. Bon. C'est énorme. Hein. Bon, je me suis un peu calmé. Cette année, je crois que je vais arriver à 2400.
And what about you, Lev? Do you count the words? I mean, apart from the world building and character building, and when you're writing, when you're typing, and
I do count the words. But it's funny. I can generally I'll average between 1,000 and 2,000. Words a day. The numbers can dip into the negative sometimes if I'm aggressively deleting the terrible stuff I wrote the day before. Conversely, I can remember, if you've read the books, the second book has a character called Julia in it, who was very, it was a very primal experience for me writing her. Her words really just burst out of me in a very passionate way. And I can remember counting the words, and I wrote 6,000-7,000 words a day when I was writing Julia, which is a speed I've not only never matched, I've never come close to that ever again. On an ordinary day when Julia is not involved, 1 to 2,000.
Just a little bit less, then.
Yeah.
Jean-Daniel saying 10 feuillets. Yeah. Very interesting.
La différence entre Lev Grossman et moi, c'est que moi, je ne fais que ça. Je ne suis pas journaliste à Time Magazine. Ça doit occuper aussi.
Alors, j'ai quand même oublié de mentionner une de tes activités, et bien sûr, c'est que tu es aussi éditeur d'une petite, entre guillemets, collection qui s'appelle Baskerville. Alors là, tout de même, tu te fournis du travail, un travail extérieur au travail.
Oui, mais quand je comptabilisais les feuillets produits durant un certain temps, je comptais aussi les traductions faites pour Baskerville qui ne me rapportent rien. C'est pour ça que j'en fais de moins en moins, malheureusement.
C'est la beauté du geste. Yes, Lev, you were about to say something.
Oh, I just wanted to add, it's something I say to writing students a lot. While I don't have a huge amount of time to work every day, more than I used to, but still not that much, I want to point out that I spend a lot of time thinking about my books when I'm not at the keyboard. It's a part of writing that is rarely discussed. But when I'm walking around, you'll see me walking around the convention, and I'll have a blank and deranged look on my face, and it's because I'm running over in my head, a little turn in a scene, and feeling that it doesn't work, it doesn't hold up. What if we tried it this way or this way or this way? That way, you know, when you have this, you have a little amount of time to write. You sit down. You don't have to waste time waiting for the muse. You know what you're going to do, and you sit down and you do it.
Ça m'arrive aussi. Moins souvent, mais là, l'autre jour, j'ai passé une heure à me promener parce que j'ai un problème de traduction dans une nouvelle à venir qui me pose... Bon, okay. Et donc, je commençais à chercher à y réfléchir, sachant que je n'aurais à régler le problème que dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, j'essaie d'anticiper. Ouais, ouais.
Alors, un autre point en commun que j'ai omis de mentionner, tu es tuteur d'étudiants en traduction. Bon, c'est vrai que Jean-Daniel a tellement de cartes. And you just mentioned, Lev, you just mentioned, are you teaching creative writing?
I teach master classes occasionally, but just 2-3 days. I don't have a teaching position.
And do you feel it's something important in your life, transmitting this kind of craft?
Ordinarily, I discourage other people from writing novels because I fear the competition. But it's some. I do very clearly recall what it was like at the early part of my, the early unsuccessful part of my career, which lasted for 15 years. I recall it very vividly, and I remember. I can think very clearly about what I wish I had known, and what I wish I had told someone had told me. And it's very satisfying to pass that stuff along, and maybe save some people some time.
Est-ce que ça fait partie de ton intérêt envers le tutorat, Jean-Daniel, justement, de traducteur?
Je résume à peu près de quoi il s'agit pour ceux qui ne savent pas. C'est que depuis quelques années, on va dire, je pense en France, depuis le milieu des années 1990, il y a des formations universitaires en métier de l'édition, notamment la traduction littéraire, etc., qui se sont créées et qui sont montées en puissance. Et il y a quelques années, une jeune fille m'a écrit en me disant qu'elle était en train de passer un master à l'université d'Angers et elle m'avait me demandé si je voulais être son tuteur. En quoi ça consiste, lui demandai-je. Eh bien, tout simplement, elle devait, dans le cadre de son année, rédiger un mémoire autour d'un livre qu'elle aurait choisi, un livre inédit en français. Elle devait en traduire des passages, présenter le livre, etc. Et mon rôle, c'était de lire et de critiquer son travail et de l'amener à l'améliorer par des échanges, des allers-retours, bref, de faire le travail que fait un éditeur au sens de directeur littéraire avec un traducteur. Bon, j'ai renouvelé l'expérience 2 ans après, encore avec un étudiant d'Angers, je dois être très connu à Angers, je remercie les Angevins, Et là, il a eu l'excellente idée, puisqu'il passait par chez moi, de me rencontrer, ce que n'avait pas pu faire sa camarade. Et donc, une demi-journée de discussion, ça m'a permis de savoir, de découvrir que ce jeune homme, qui avait 22, 23 ans, en savait autant que moi et travaillait mieux que moi quand j'avais 35 ans, c'est-à-dire qu'il avait 10 ans d'avance sur moi. Donc je me suis dit, c'est prodigieux ce qu'on leur apprend maintenant. Et j'avais pas grand-chose à lui faire découvrir, à part quelques ficelles, quelques conseils de bon sens, la façon de traiter les relations avec les éditeurs, les habitudes de travail, etc. Mais que par contre, lui, il pouvait m'apprendre des choses. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de renouveler l'expérience, parce qu'on en apprend tous les jours.
And what about you, Lev? Did you learn something from this passing on of your craft? Did you also learn something for your craft through doing this?
Yeah, I think I did. I spend a lot of time just looking over, studying the beginnings of novels. I'd like to take the first page, and we all sit around and talk about it. I take the first page of Tinker Tailor Soldier Spy by John le Carré, a perfect beginning of a novel. The first page of Pride and Prejudice, which a lot of people can quote from memory. The first page of The Big Sleep by Raymond Chandler. And we sit and we look and we just figure out why it works, and try to pick it apart. And when we do that, everyone's on the same level. We're all trying to learn at the feet of the master. And that's not me. That's Jane Austen.
Great. J'aimerais maintenant passer aux questions éventuelles de la salle. En avez-vous? Tout de suite, alors que ce soit des questions à l'auteur, au traducteur ou...
Bonjour, j'ai une question pour Jean-Daniel Breck à propos de... Avez-vous été traumatisé par l'expression « la solution de continuité » ? Parce qu'en fait, on la retrouve partout dans le premier tome. Pour les autres, je ne sais pas, je viens juste d'acheter le deuxième. Et je ne pense pas que ce soit une expression très utilisée par les jeunes d'aujourd'hui. En fait, je l'ai découverte, en vérité, je l'ai découverte
dans
votre
action. C'est ce qu'on appelle un tic. Ben, vous me le signalez, je vais tâcher de corriger. Mais bon,
c'est
cela dit,
ça
a une signification bien précise. Mais ça, c'est le rôle de l'éditeur après, de me dire à Jean-Daniel, il y a certains de mes tics que je connais. Par exemple, j'aime bien utiliser, pour varier, plutôt que de dire... l'immeuble était très beau, l'immeuble était fort beau, l'immeuble était, bon, l'exemple m'a choisi, des plus beaux, pour varier un peu, mais parfois j'ai tendance à utiliser trop souvent ça, ou bien de dire au sein de plutôt que de dire dans, vous voyez, ou bien de mettre nul à la place de personne. Il faut se surveiller pour éviter que les lecteurs les plus futés le repèrent. Je vous présente mes hommes, mes excuses.
Je pourrais ajouter que il me semble que le bon traducteur est comme le héros. Il ne peut gagner la bataille que s'il doute avant. Hein, et que le doute fait partie intégrante du travail de traduction. Autrement, je crois que si on est sûr de soi, ça n'est pas la peine. C'est l'auteur qui prime au début. On doit vraiment d'abord s'imprégner de son travail. Alors, bon, sur les questions de dialogue, d'expression, etc. Maintenant, est-ce que la solution de continuité ne va pas continuer à fonctionner d'ici 10 ans? Pour le lectorat dans 10 ans, ça, c'est une bonne question aussi, me semble-t-il.
Allez-y, d'autres critiques. Lâchez-vous.
Alors, Jean-Daniel a un petit... D'ailleurs, m'a précisé avant notre table ronde, rencontre, que, justement, il regrettait peut-être un petit truc qui fonctionnait bien dans le premier, mais qui, le troisième n'étant pas écrit, il ne pouvait pas savoir que ça allait être...
Je vais le raconter parce que ça s'est passé ici.
Il va vous expliquer.
Ça s'est passé ici. Enfin, ça s'est dénoué ici. Pendant que je traduisais La Terre du Magicien, à un moment donné, je lis dans le texte anglais une phrase... C'était une réplique assez sèche, assez méchante. Et lui, ça me dit quelque chose. Bon, ce n'était pas une expression courante, hein. C'était bien tourné. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà lu ça quelque part. Donc je fais une recherche sur Internet et j'ai retrouvé la phrase, où est-ce que je l'avais lue ? C'était dans Les Magiciens. C'est-à-dire que dans Les Magiciens, à un moment donné, alors on ne va pas vous gâcher, no spoilers here, on ne va pas vous gâcher la lecture, mais mettons qu'il y a le personnage A qui dit quelque chose de méchant au personnage B. Et vu la situation, vu leur relation, etc., la traduction de cette réplique, elle coulait de source. J'étais tout à fait... j'ai vu tout de suite, hop, voilà. Et dans La Terre du Magicien, le troisième volume, donc, qui a été publié 4 à 6 ans après le premier, c'est-à-dire que quand je traduisais le premier, le troisième n'était même pas écrit, c'est soudain la même réplique qui réapparaît dans un autre contexte, et cette fois-ci, c'est B qui la sort à A. Et là, la façon de traduire que j'avais choisi dans le premier volume ne collait absolument plus. Parce que dans ce nouveau contexte, la même phrase prenait un double sens qui était, comment dirais-je, embryonnaire déjà, mais qui n'apparaissait pleinement que dans le troisième tome. Moi, j'étais bien embêté. Quand j'ai rendu mon travail, j'ai signalé à l'éditeur, j'ai dit, bon, là, il y a quelque chose à corriger, on en reparlera. Mais comme le livre ne devait paraître que quelques mois plus tard, j'avais le temps de réfléchir. Et puis, l'année dernière, ici même, Mireille Rivalan de La Talente m'apprend que le volume 1, Les Magiciens, étant quasiment épuisé, ils allaient le rééditer. J'ai dit, est-ce qu'on peut changer quelque chose ? Ah oui ! Et alors, donc, je me suis creusé la tête à nouveau pour trouver une traduction qui aille dans le tome 1 et dans le tome 3. Et j'ai fini. Donc, j'ai une nouvelle pour tous ceux qui ont acheté Les Magiciens dans la première édition. Si vous ne voulez pas dépenser des sous pour racheter la deuxième édition, j'ai un petit encart à glisser. S'il y en a parmi vous qui s'intéressent, je le distribuerai tout à l'heure, peut-être à côté de Lev Grossman quand il fera sa dédicace après la table ronde. Mais cela dit, c'est le genre de choses. Et je vois Patrick Marcel qui est assis au premier rang. Au moment où tu vas tomber sur Hodor, dans Game of Thrones, toi aussi, tu vas te poser la question. Maintenant qu'on sait ce que ça veut dire. Voyez, ça, c'est un personnage qui s'appelle comme ça depuis 20 ans, et on le comprend seulement maintenant. Donc, il faut tout refaire.
And Lev, did you know when you were using the sentence in the first volume, did you know you would be using it again and reverse it in the third, if I got it well?
Oh, I wish I were that. I wish I was that. I wish I had that much foresight. I didn't realize until much later that I would use it again. The repetition was quite deliberate and very pointed. I'm going to use that sentence again in my next book that I'm writing, and you'll have to correct the first two to accommodate the double entendre.
Ça va être votre marque de fabrique, your trademark.
Y a-t-il d'autres questions ? Oui, j'en vois une ici.
Bonjour. C'est une question pour Jean-Daniel Breck. C'est plus par rapport... quand vous êtes en train de faire une traduction, par rapport au niveau de langage, moi, j'ai été traumatisée par une traduction il n'y a pas si longtemps que ça. Non, pas la vôtre. Je vous rassure. Et en fait, la traduction française présentait des niveaux de langage différents, alors que c'était les mêmes personnages qui parlaient. Et ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de... Enfin, ça m'a vraiment choquée. Et est-ce que ça vous est arrivé, quand vous êtes en plein milieu d'une traduction, de vous rendre compte que le niveau que vous employez ne correspondait plus tout à fait à ce que le personnage utilisait et faire des rectifications en amont. Et comment ça vous arrivait, comment vous travaillez, dans quel ordre vous travaillez, voilà.
ça m'arrive en ce moment même sur la traduction ça m'arrive récemment sur une traduction que j'étais en train de faire pour ma collection Baskerville, ma seule traduction de l'année. Ça raconte les aventures d'un lord anglais qui ressemble à un jeune Godeluron, mais qui est beaucoup plus malin qu'il en a l'air, et qui se retrouve au Far West. Et donc il y a des longues scènes de dialogue entre lui et, disons, un cow-boy, pour simplifier. Et j'ai eu énormément de mal à trouver le ton juste, le niveau de langage, pour le cow-boy. qui donc était présenté comme un être un peu fruste, mais pas stupide du tout, et qui échangeait parfois en anglais avec le personnage dans un anglais très correct et très châtié. Donc il fallait que je fasse gaffe à, de temps en temps, lui faire sortir une expression du style bon, je dis n'importe quoi, mais pour sûr, ça alors, pour montrer que bon, il parlait pas de façon châtiée, mais sans le faire parler en bas, sans le faire baragouiner. Donc ça, c'est très délicat. Là, en ce moment, je suis en train de traduire, j'ai commencé la traduction d'un roman de Poul, d'une série de nouvelles de Poul Anderson qui ont été écrites dans les années 50-60. Et c'est du space opéra, c'est-à-dire c'est des astronefs, etc. Et je m'efforce d'essayer de respecter un peu la terminologie qu'aurait mis un traducteur français de l'époque pour traduire ce livre. Par exemple, les héros dans ce space opéra, ils sont armés, ils ont des blasters. Bon, je ne vais pas mettre pistolet laser. À l'époque, en français, on mettait des intégrateurs. Donc, je mets des intégrateurs. C'est un projet délibéré. Parce que c'est un ouvrage un peu vieille école. J'essaie de ne pas le traduire en français trop moderne. Bon, mais ça, ça demande une vigilance. Bon, à ce moment-là, à la réécriture, oui, on le voit mieux. Quand on travaille au jour le jour, parfois, on laisse passer des choses. Bon, j'ai la solution de continuité, je ne le ferai plus. Je me le mets sur le front.
Lev, are you learning something today by listening to what your shadow is saying?
I'm realizing how hard you work, and I'm very grateful for it.
D'autres questions?
Une question pour Lev Grossman. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez choisi votre traducteur français? Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous avez le choix de votre traducteur? Parce que vous l'avez rencontré, parce que vous l'appréciez, parce qu'il est fidèle à votre ton et votre univers? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui vous le propose ou qui vous l'impose?
Something like a Hunger Games sort of competition between translators. Jean Daniel was the sole survivor, and he earned the right to translate my work. In short, no. One is informed of who one's translator is going to be, and I've in many cases gotten unlucky. In this case, I got very lucky.
Je rajoute un petit détail qui va vous faire rire. Pourquoi j'ai été choisi? À l'époque, je pense que c'était Pierre Michaud qui m'a contacté. Hein. Il pensait que c'était dans mes cordes. Donc, il me parle du livre, il me parle de l'auteur. Et soudain, j'ai eu un flash. J'ai dit, mais Grossman, je l'ai déjà traduit. Et en fait, j'ai traduit le roman de son frère jumeau. Un ou deux ans avant, j'ai traduit un livre qui s'appelait « Un jour, je serai invincible » de Austin Grossman, qui m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai découvert que c'était le frère jumeau. Et d'ailleurs, on en a discuté, il y a un petit point commun entre Les Magiciens et Un jour je serai invincible qui est assez surprenant. Quoi. Bon, je vous laisse le soin de découvrir, no spoiler.
So how did it feel for you, Lev, then? To have this kind of half-shadow or double-shadow?
A twin and a translator. Oh, I've been shadowed my whole life. So it's an uncanny feeling, but not an unfamiliar one. One never quite gets used to it.
Prochaine question.
Bonjour. Alors, je me posais la question du futur de la traduction avec tout ce qui est introduction des e-books. Parce que, de manière générale, nous, quand on a Word ou Excel, on reçoit des mises à jour dire tous les mois, tous les ans. Et si demain, quand c'est sur e-books, là où vous dites l'erreur de traduction, ah, c'est bête, j'aurais voulu la corriger, le e-books, vous pouvez envoyer la mise à jour et dire, quand j'ouvre mon livre sur Internet, ah tiens, j'ai une notification, j'ai telle mention qui a été corrigée. Et donc, je voulais savoir si vous l'aviez déjà en vue, c'était déjà en préparation, et est-ce que... Si c'est en cours un jour, est-ce qu'on pourrait nous faire payer cette mise à jour avec la dernière traduction à la Vogue?
Alors, traduire, Incorporer des corrections dans un e-book pour une nouvelle édition, c'est faisable. Bon, pour ma collection Baskerville, je suis aussi l'éditeur des versions numériques. Bon, je pourrais le faire, mais à ma connaissance, pour l'instant, il n'existe pas d'outils qui permettent de faire des corrections dans l'e-book. C'est-à-dire, je sais fabriquer un e-book à partir d'un fichier Word, mais si je voulais faire une nouvelle édition, il faudrait que je repasse tout le travail. C'est-à-dire corriger le fichier Word, mettre le catalogue à jour, tant qu'à faire, et ensuite refaire la conversion, remettre la couverture, fabriquer un nouvel e-book. Bon, ça me prendrait pour un livre, ça me prendrait deux heures de travail. Je n'ai pas toujours le temps, quoi. Je le ferai parce que sur les livres que j'ai publiés moi-même, on m'a signalé, il y a encore des coquilles, etc., je note. Bon, sur les livres que je n'ai pas publiés, qui ont été publiés par le Bélial, par la Talente, etc., je crois savoir que le Bélial le fait de temps en temps et qui prévient, comme il fait beaucoup de ventes directes, les gens qui ont acheté une précédente édition non corrigée, comme quand ils font ça sur le site du Bélial, bon, je raconte peut-être pas exactement, mais c'est ce que j'ai compris, ils sont inscrits dans une bibliothèque où on a enregistré les livres qu'ils ont vendus. Donc, sans doute, ils ont un petit email. Si vous voulez, vous avez acheté au hasard le Dragon Griol de Lucius Shepard.
Version
1.0. On vient de corriger quelques petites pétouilles. Si vous voulez, vous pouvez télécharger la version 2.0. Ça doit se faire déjà au niveau artisanal. Je ne sais pas si les éditeurs mainstream, entre guillemets, les grands éditeurs le font. Mais je pense que c'est envisageable, oui. Il n'y aura jamais d'édition définitive, dans l'absolu. Hein.
En tout cas, je me permets d'ajouter une précision. Du point de vue du droit français, ça n'est possible qu'avec l'accord du traducteur, car c'est le traducteur qui est considéré comme l'auteur du texte français. Alors, c'est un co-auteur, c'est l'auteur de la langue que vous lisez, enfin, du texte dans la langue que vous lisez, bien sûr, mais voilà, donc il faut absolument, pour ce genre de correction, qu'il y ait l'accord du traducteur. Voilà, c'est a priori l'aspect légal. Une autre question ? Non, alors je vais en profiter pour signaler si personne ne se manifeste. Je vais donc en profiter pour signaler que Lev Grossman va être en dédicace là tout de suite à la librairie et que vous pourrez donc, ceux qui le souhaitent, récupérer ce fameux...
La page 321 de la première édition des Magiciens.
Voilà. Je vais donc laisser Lev se diriger vers sa dédicace et prendre les deux petites minutes de respiration qui lui seront nécessaires. Merci beaucoup et je vous invite à continuer l'exploration du monde de la science-fiction et de la traduction aux Utopiales. À bientôt.
Merci à toi.
Thank you both.